Bonsoir, 100 fois plus rapide que la 4G. La 5G prépare son arrivée en France. Des tests en grandeur réelle ont été menés hier sur Bordeaux par Bouygues Télécom. Oui, la 5G, c'est d'une part évidemment un débit beaucoup plus important et puis aussi un temps de latence, c'est-à-dire un temps de réponse du réseau qui est abaissé. Et les usages, ils sont considérables. La voiture connectée, la santé, l'Internet des objets. Alors la 5G, est-ce que vous en avez envie ? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, peut-être qu'on va vous donner envie de consommer de la 5G dans 2 ans. On verra exactement quand, exactement tout ça, évidemment, va se mettre en place. On va en parler toujours avec les meilleurs experts. Il y a Merwan Deba, le directeur R&D de Huawei en France, très impliqué dans la 5G, l'équipementier chinois. On est avec un opérateur, c'est Christophe Delay, alors pas le présentateur vedette de BFM TV, hein, ça s'écrit différemment. C'est le directeur exécutif réseau et système d'information de SFR. Alors bon, je suis très honnête, évidemment, je suis très œcuménique. On est une filiale de SFR, vous le savez, hein, mais on saisit de l'actualité aussi de Bouygues. On est très très libre. Hein. Parfois c'est Orange qui vient, parfois c'est Free, parfois c'est B. Et ce soir, c'est SFR. On est avec Pierre Bosquet, associé spécialiste des télécoms dans le grand cabinet Deloitte. Et puis Frédéric Simotel, éditorialiste high-tech de BFM Business. Juste un petit mot, parce que je suis honnête jusqu'au bout, évidemment, comme je le disais. Sur ce plateau, on l'a annoncé d'ailleurs sur Twitter, vous avez peut-être suivi ça tout à l'heure vers 5h30, 6h, eh bien devait venir le président de l'ARCEP, Sébastien Soriano. Tout était calé depuis 2 jours hein, avec ses services. Et puis une heure avant le début de cette émission, qui dure depuis 6 ans, vous le savez, on a calé des milliers d'invités, et S et ES, justement, eh bien ce monsieur nous informe qu'il ne viendra pas, parce qu'il n'y a pas de femme. Il n'y a pas de femme sur le plateau. Alors c'est à la fois malhonnête, parce qu'il fallait nous prévenir de cette règle qui est ridicule. Quand on appelle un opérateur, en l'occurrence SFR, un grand cabinet Deloitte, un équipementier Huawei, ben ce sont eux qui vont choisir le meilleur, ou la meilleure, la personne disponible. Hein. Homme, femme, noir, handicapé, blond, les yeux bleus, bodybuildé, on s'en fout, peu importe. Du moins que ce soit les meilleurs experts, comme chaque soir. Voilà qui est dit, surtout que Sébastien Soriano était déjà venu sur un plateau 100% masculin, ça ne l'avait pas gêné. C'est pas très réglo pour un serviteur de l'État. Voilà qui est dit. Alors, la 5G. Frédéric.
Oui. Bon. Ça arrive.
Faites-nous rêver. Ça sera quoi? Quelle vitesse? Quels usages?
En avons-nous envie? Oui, de toute façon, on va y aller. Donc, on l'aura. Alors après, les dates, c'est 2023, 2025, 2030.
Déjà, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Moi, j'ai envie de, ça y est, d'avoir
La 5G, oui, c'est en débit et descendant. C'est dans une station vers un terminal. C'est 20 gigabits. Donc, et de l'autre côté, c'est 10 gigabits. Donc, c'est 100 fois plus puissant. Ouais. Voilà, en moyenne que tout ce qu'on peut avoir. Vous l'avez dit en présentation. Un temps de latence très minimal, c'est une milliseconde de temps de latence. C'est-à-dire le moment où...
Enfin, pardon, c'est de l'immédiateté, c'est de l'instantanéité, c'est ça?
Oui, par rapport... Imaginez, la 4G aujourd'hui, c'est entre 25 et 40 millisecondes, en gros.
Donc, compte les millisecondes.
Donc voilà. Mais voilà.
J'ai l'impression que ça va vite.
Vous ne sentez rien, mais on sent pas vraiment grand-chose avec la 4G, avec la 5G, ce sera encore plus instantané. Mais c'est quoi? On va télécharger un film en haute définition en 3 secondes. Ouf. Voilà, on va pouvoir s'échanger tout un tas de fichiers. Et puis évidemment.
Et ça, évidemment, c'est pas le cas avec la 4G en ce moment.
Hein. C'est pas le cas avec la 4G. Et puis évidemment, ça va être alors sur les applications courantes hein, de diffusion vidéo. On va en reparler des expériences qui ont été faites aujourd'hui. Mais ça va surtout servir à tout ce dont on parle depuis un moment. C'est le véhicule autonome. Le véhicule autonome, ça ne tolère pas cette milliseconde de latence.
Ah oui, quand on freine, bien sûr, quand il y a un obstacle, par exemple. Voilà, c'est ça plutôt. Hein.
Mais ça va être tout un tas d'informations. Ça va permettre à des zones dans l'agriculture connectée, dans l'éducation en ligne. Enfin, ça va être tous les usages déjà que l'on a aujourd'hui avec la 4G, ça va être
amplifié
par 100, ça va être amplifié. Génial. On va pouvoir encore plus de débats, encore plus de rapidité. Et puis ça va être ces nouveaux usages sur de la voiture autonome, sur l'énergie, dans le portuaire.
Enfin, on va y revenir. En plus, vous allez voir, c'est une source de revenus infinie et au-delà des opérateurs pour l'économie en général.
Oui. Dernier petit point, ça devrait les normes. Enfin, on va en parler de ces normes-là, mais permettre d'avoir une autonomie aussi beaucoup plus importante sur les équipements. Et ça aussi, c'est quelque chose que l'on attend beaucoup.
Alors justement, Huawei, Merwan Deba, directeur R&D, racontez-nous en quoi ça consistait ce test. Vous étiez aussi hein, aux côtés de Bouygues Télécom, donc hier à Bordeaux. Qu'est-ce qu'on teste? Pourquoi on parle de tests réels? Racontez.
Oui, en fait, les tests sont très importants dans la 5G parce que tout simplement, ce qu'on développe en général, c'est des prototypes dans des laboratoires avec ce qu'on appelle des débits crêtes. Donc les débits qui avaient été donnés, c'est un débit crête de 20 gigabits par seconde. Mais en test réel, on est dans des conditions avec des réflexions, des murs. Et dans ces cas-là, il faut effectivement voir comment se développe la techno. Et ce qui a été fait comme test exactement, c'est de voir avec un pilote de deux stations de base, de voir transmettre et voir un petit peu le débit qu'on veut atteindre. Et donc, il y a eu un scénario de virtualisation avec des casques. Il y a également des tests de conduite pour vérifier un peu la latence. Alors, je tiens quand même à préciser quelque chose qui est très important. On parle de 5G, mais il faut savoir que la 5G va venir en deux étapes. Le segment qui arrive en ce moment et qui a été standardisé, c'est le segment de du haut débit, du très haut débit, qui est le segment capacitif que la majorité des opérateurs ont. La vraie 5G, avec toute sa standardisation dans laquelle on aura la latence d'une milliseconde qui était garantie, la connectivité massive d'un million d'objets par kilomètre carré, va arriver fin 2019. Donc à partir de 2020, on aura effectivement.
Mais simplement sur Bordeaux, jusqu'à présent, les démonstrations, les tests, ils étaient réalisés quoi en labo. Qu'est-ce que ça a prouvé hier, les tests réalisés sur Bordeaux, et puis je crois une ville de sa communauté.
Alors, ça permettait déjà de vérifier que sur des bandes de fréquences qui étaient permis sur lesquelles on a pu transmettre, qui est ce qu'on appelle la bande de 3.5 GHz, on peut avoir effectivement des débits assez conséquents. Le test qu'on a fait, c'était un débit de 2,3 gigabits par seconde qui a été fourni aux utilisateurs.
Alors pas trop de technique dans l'écho, simplement vous nous dites c'était réussi, pas réussi.
C'était réussi, bon. C'était un succès.
Qu'est-ce que ça a permis de faire concrètement?
Ça a permis de tester deux scénarios. Un scénario, c'était un scénario de télémédecine, mais là, principalement de voir comment à distance on pouvait se connecter et pouvoir parler à quelqu'un.
Bien sûr.
Et le deuxième scénario, c'était principalement de voir conduire une voiture et de tester effectivement la latence entre un réseau 4G et un réseau 5G.
Il n'y a pas eu d'accident?
Voilà. Non, il n'y a pas eu d'accident.
Tout s'est bien passé. Ce qui s'est passé à Bordeaux, Pierre Bosquet, donc associé chez Deloitte en charge des télécoms, c'est un moment important. Bordeaux, c'est l'une des implantations de tests qu'il y a en France. Il n'y a pas que Bouygues, bien sûr, parce que Orange réalise des tests. SFR, vous allez nous le dire dans un instant. Christophe Delay, Pierre Bosquet.
Il est effectivement important de le faire en province, parce que, comme vous l'avez dit, pour le grand public, la 5G, c'est la fibre en mobilité. Et par la fibre en mobilité, on voit bien l'intérêt pour la vidéo. Donc on va passer à la UHD, puis à la 8K. Ça, c'est sur le téléphone portable. Mais il ne faut pas oublier aussi les zones rurales où la 5G peut permettre de remplacer la DSL et de donner une expérience équivalente à la fibre.
Ouais, alors, je vous une parenthèse, vous me donnez tous une réponse peut-être, et vous, Christophe Delay, puis je reviendrai sur les expérimentations que vous faites chez SFR, mais c'est important parce que à un moment où dans certaines régions, on va chercher du réseau, c'est 3G, c'est en Edge. Bon, vous savez très bien, on galère tous sur certains territoires, bien entendu. Pour un certain nombre, la 5G, ça va pas être un rêve, quelque part inatteignable? On aura de la 5G même dans les zones les plus reculées, par exemple?
Alors, ça, c'est une question qu'il faudra poser
Alors, allez-y, Christophe Delay, SFR, alors. Rassurez-nous.
Oui, sur la longue route, il y aura effectivement de la 5G sûrement partout.
Oui.
Après, il faut quand même aussi avoir en tête que on couvre déjà 97% de la population en 4G.
La population.
Que
dans
les discussions que nous avons signées avec le gouvernement, qui est le New Deal, on a pris un engagement de couvrir quasiment l'entièreté du territoire en 4G, et ceci quasiment en 2020.
Où est-ce qu'on en est là aujourd'hui? On se parle mi-2018.
On est à 97%.
Oui, de la population.
De la population. Et sur le territoire, là, on a annoncé les 480 premiers sites qui allaient être déployés début 2018. Et donc 2020, on aura une couverture quasiment complète.
Donc le pari va être tenu.
Et le pari va être tenu. Bon. D'abord, on s'y est tous engagés et les travaux sont sont sur les rails.
Alors refermons la parenthèse 4G, parce que moi, je me projette déjà vers la 5G, justement. Ce que vous dites, donc, c'est qu'on va trouver de la 5G sur les grands réseaux, mais ailleurs, oui ou non?
Alors, la 5G, en fait, faut pas présenter la 5G, ça va être une continuité aussi par rapport à la 4G. Parce que la 4G, on l'a commencé il y a quelques années. Vous savez que l'année dernière, on était à 300 Mbps sur la 3G, sur la 4G, pardon. On vient de passer Bordeaux à 500 Mbps. Et l'année prochaine, on montera quasiment jusqu'à 1 gigabit seconde sur la 4G. Donc il est extrêmement important pour nos clients et pour les gens qui nous écoutent. C'est-à-dire que la 4G, c'est pas fini, ça va continuer à évoluer. Par contre, avec l'accroissement des usages qu'on rencontre aujourd'hui, faut avoir en tête que les clients français ont multiplié par deux la consommation data en un an. Et je ne vois aucune raison pour que ça s'arrête.
Ça s'arrête, bien sûr.
Ça va pas s'arrêter.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Donc, le problème que nous, SFR, on a, c'est que le trafic augmentant beaucoup, il faut qu'on augmente la capacité dans nos réseaux. Donc, la 4G va permettre de faire une partie du chemin, et c'est la 5G qui va reprendre la, qui va prendre la suite, donc, a priori, dès début 2020, avec une certaine continuité des usages et des améliorations sur le débit et sur quelques éléments aussi de latence assez rapidement. Et puis tous les usages dont vous avez parlé de la voiture connectée, c'est des choses qui effectivement arriveront un petit peu plus tard.
Frédéric Simotel.
Oui, ou de la ville intelligente. Mais c'est vrai qu'il faut, c'est vrai que c'est important de rappeler qu'on est dans une continuité et qu'on n'est pas comme à l'époque où on est passé de la 2G à la 3G où là il y avait vraiment eu
un saut.
Vraiment un saut, puis même dans les technologies, même dans les équipements. Là on est dans une continuité. On verra apparaître peu à peu des terminaux qui seront à la fois 4G, 5G.
Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire, Frédéric ou Merwan Deba de Huawei, on pourra garder son téléphone, qu'on soit sur la 4G ou la 5G. On sera pas obligé de racheter un nouvel iPhone à 1000 euros, par exemple. Hein.
Alors, ou disons que les téléphones qui vont être vendus auront la 4G et auront la 5G. Parce que, grosso modo, sur certains scénarios, il faut qu'on ait une couverture. Et ça, c'est très important. Mais ce qui était aussi très important de dire, et ça a été réexpliqué, c'est qu'il y a une partie dans la 5G qui sera une évolution. Il y aura une partie qui va venir à la fin de la 5G qui sera effectivement la révolution qu'on connaît avec la latence et la connectivité. Et ces deux aspects-là, il faut bien les prendre en compte dans le développement de la 5G.
Mon cher Frédéric, continuez.
Donc on aura à court terme de la montée en débit, on vient de le dire. Ce qu'il faut suivre derrière, c'est que pour que tout ça on avance dans les temps, c'est qu'il faut aussi fournir des processeurs, fournir des équipements. Faudrait voir la taille des équipements hier. Enfin, on va demander à SFR et Bouygues sur la taille des équipements, des routeurs aujourd'hui. Voilà, est-ce que ces équipements, il faut encore les miniaturiser, il faut qu'ils consomment moins d'énergie. Enfin, il y a tout un travail à faire autour.
Où est-ce qu'on en est justement cette technologie autour de la 5G, que ça soit vous, les réseaux SFR ou vous, l'équipementier Huawei. Je sais que vous y planchez depuis 10 ans d'ailleurs, vous chez Huawei. Allez-y, Christophe Delay, SFR.
On a fait des premiers tests il y a un peu plus d'un an
en
5G et le terminal à l'époque, c'était quelque chose qui était à peu près comme ça.
Alors bon, pour ceux qui sont à la radio, c'est-à-dire quelque chose qui fait un cube d'un mètre sur un mètre.
Un gros mat cube.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Donc c'est pas très pratique à porter. On a fait des essais avec Huawei début mai et là à ce moment-là, on avait un terminal qui avait la forme d'une box en fait.
D'accord.
Qui avait la taille d'une box.
D'accord.
Donc en un an, on a diminué la taille de façon extrêmement importante. Et ce qu'on voit, et je pense que vous pourrez confirmer,
mais
c'est que
débat.
Sur la partie terminaux mobiles, qui ressemble à ce qu'on a aujourd'hui, les premiers samples sortiront Q2 2019. Et les productions de masse, c'est Q3, Q4 2019.
On est sur cette lignée. Il faut savoir que, bon, c'est classique, je veux dire, dans tous les développements des technologies qu'on a connues, on commence toujours par quelque chose qui est super gros, qui fait un mètre cube, et ensuite, la miniaturisation arrive principalement rapidement. Il faut savoir que c'est des investissements de 10 ans. La 5G, Huawei a investi à peu près $600 millions à partir de 2009 pour la développer. Ce qui a été dit est vrai. Actuellement, ce qui est disponible sur le marché, c'est des routeurs 5G, principalement des choses qui peuvent faire du fixe access, un peu une version WiMAX de la 5G avec du très haut débit. La partie mobile, en tout cas, dans les développements qu'on connaît, les opérateurs, les commitments qui ont été faits, vont arriver en 2019.
Alors, justement, quand est-ce que ça sera commercialisé? On va écouter justement Olivier Roussa, qui est le PDG de Bouygues Télécom, justement, qui menait cette expérimentation avec vous, Huawei. C'était donc hier à Bordeaux. Olivier Roussa, il est avec Jean-Baptiste Huet.
Là, la 5G, nous avons besoin d'avoir l'autorisation des fréquences qui sont nécessaires pour faire la 5G. On les attend fin 2019, début 2020. Et donc, à partir du moment où nous aurons ces fréquences, il sera possible d'allumer cette 5G. Et les expérimentations que nous menons à l'heure actuelle nous permettent d'engranger de la compréhension, de la compétence sur les réglages qui seront nécessaires pour que, dès l'obtention des fréquences, nous soyons capables d'allumer un grand nombre de sites extrêmement vite pour apporter la 5G aux Français. Notre compréhension, c'est qu'à date, on sera capable de faire le commerce de la 5G courant 2020.
Alors 2020, on est d'accord, c'est une date, c'est l'objectif donc en France, en Europe, Frédéric Simotel.
Oui, il y a un échéancier. Après, j'ai dit, il y a toute une chaîne derrière. On l'a dit, il y a une chaîne de production de processeurs et tout ça.
Et de régulation aussi, parce qu'il vient d'en parler, Olivier Roussa.
Et de
fréquences, on va en parler, bien sûr.
Et de normes, et d'usages, et puis il va falloir trouver aussi le juste équilibre économique, aussi. Enfin voilà, ça fait tout un ensemble de choses. Mais c'est vrai que voilà, on voit selon l'avancée, on voit des expérimentations. Voilà, on n'est pas comme il y a quand on était passé de la 2G à la 3G. 3G où tout le monde voyait ça beaucoup trop vite. Mm-hmm. Et quand on allait interroger les fabricants de microprocesseurs à l'époque, ils disaient, oula, attendez, nous, on sera prêt en 2005-2006. C'est ce qui s'était vraiment passé. Donc là, oui, on est dans ces échéances-là, à partir de 2019-2020. On va avancer après pour un déploiement massif. Alors on sera dans les 2025-2030.
Mais alors, les fréquences quand même, hein, parce qu'il faut quand même que les gouvernements, parce qu'on parle de la France, mais évidemment, c'est un problème, une donnée qui est européenne, vaguement, et puis mondiale, bien sûr, on va en reparler dans un instant. C'était vraiment un objet de tension entre Chine et États-Unis. Il faut que le gouvernement accorde des licences, licences hertziennes, hein, pour faire passer la 5G. À quel moment ils vont attribuer les fréquences? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'il y en a assez, là? Qui est-ce qui me répond? Vous voulez me répondre, Pierre Bosquet, Deloitte?
Ah bah les fréquences, c'est l'enjeu de la 5G pour pouvoir le déployer à grande échelle. On a parlé des très hauts débits et la fibre en mobilité. Ça passera par de l'allocation de fréquences de façon massive. Et que ce soit dans les fréquences hautes ou dans des fréquences plus basses.
Hein. Est-ce qu'il y en a assez? Parce qu'il y a une question en ce moment, et le président de l'ARCEP l'avait soulevé il y a quelques jours encore, c'est la question de la TNT. Est-ce que la TNT est toujours tendance quelque part? Est-ce que la TNT n'est pas has-been quelque part? Est-ce que la puissance publique pourrait reprendre les fréquences de la TNT pour les réattribuer aux télécoms, à votre avis? Vous pouvez m'en dire un mot? Merwan Deba, Frédéric Sibotel.
Rapidement, il n'y a jamais assez de spectre, ça c'est clair. Parce que plus on a de spectre, plus on augmente en débit. C'est classique, c'est mathématique. Par contre, comme cela a été dit, il y a deux types de fréquences. Il y a ce qu'on appelle les fréquences en dessous de 6 GHz, qui sont des fréquences qui ont un peu de bonne propagation, conditions de propagation, des fréquences un peu hautes, qui ont de moins bonnes conditions de propagation. Sur ces fréquences-là, je pense qu'il y a un accord un peu global au niveau de l'ensemble des pays, que c'est la bande 3-5 sur laquelle on va converger pour déployer la 5G. Et là, globalement, le test qu'on a fait avec Bouygues était sur cette bande-là. D'accord. Et sur cette bande-là, effectivement, il y a à peu près 4 opérateurs en France, sur lequel, et donc mon collègue en dira un peu plus, et sur lequel il y a des discussions qui vont se mettre en place sur le cas français, parce que ensuite il faut bien spécifier. Et là, je pense que l'ARCEP va définir une feuille de route dans les prochains jours, enfin dans les prochains mois, pour arriver à trouver ce spectre disponible pour les opérateurs.
Voilà. Christophe Delay.
Oui, sur le 3.5, a priori, il y a suffisamment de spectre, hein, parce qu'on pourrait presque avoir quasiment entre 80 et 100 mégas par opérateur.
Donc, à la limite, il n'y a pas besoin de dégager les actuelles fréquences de la TNT. Il y a toujours des gens qui regardent la télé, évidemment, avec la TNT.
Et puis, effectivement, il y a des gens qui regardent, et puis je crois qu'il y a de moins en moins de choses qui passent sur les grandes ondes, mais il y a quand même encore des gens qui écoutent les grandes ondes. Donc,
grandes ondes radio, bien sûr.
Sachant qu'effectivement, en fait, il y a trois niveaux de fréquences. Il y a les fréquences à 3.5 et ça c'est très très bien pour faire de la capacité et de la couverture.
Donc ça on a
dans les zones denses.
Ça on a.
Bon. Et c'est là où on va d'abord déployer la 5G. Après il y a quand on dit qu'on monte très très fort en débit et qu'on veut faire du fixe, il faut monter là dans des fréquences très très élevées. C'est ce qu'ils font aux États-Unis. Et là par contre on a des portées qui sont extrêmement faibles. Donc là, c'est aussi un type d'utilisation et c'est ça qui permettra de monter à 20 gigas. Et puis après, pour les couvertures des zones, je dirais moins denses et un peu plus rurales, là, il faut qu'on descende en fréquence. Et c'est là où, effectivement, les fréquences de la TNT, qui sont plutôt aux alentours des, je crois, 600 mégas,
oui, bon.
sont des bandes qui pourraient nous intéresser.
Ouais, tout juste.
Mais c'est dans quelques années, quand même.
Donc, finalement, c'est une technologie, quand même, je dis pas qu'on est assez balbutiement, ça fait 10 ans que vous y travaillez, mais on n'est pas encore complètement abouti, Frédéric Simotel.
Oh non, on est quand même bien avancé, ouais. Mais surtout, on voit chacun commence, à son échéancier. On commence à comprendre aussi que, on l'a dit, il y a ces différentes bandes de fréquences. On va pouvoir faire des choses différentes selon le réseau. Il y a des endroits. On parle beaucoup de l'internet des objets. Tout un tas de capteurs que l'on va avoir. Alors là, on parle dans les voitures, il y a plein de capteurs. Dans les villes, vont être équipées de capteurs dans les parkings, dans les lampadaires.
C'est ça qui est intéressant.
Ça va faire beaucoup de données.
Frédéric, il faut nous expliquer, parce que c'est vrai que la particularité de la 5G, hein, qu'on va découvrir dans 2 ans, c'est de pouvoir découper le réseau quelque part en morceaux, quelque part en piles, hein, qui vont permettre à des entreprises de déployer leur propre réseau 5G, hein, Pierre Bosquet, en fonction des usages, quelque part de les adapter. Je prends un exemple, par exemple, les sociétés d'autoroute qui pourraient déployer leur propre réseau avec une offre de service. Dans une voiture, il y aurait la 5G quelque part pour consommer des vidéos, par exemple, dans la voiture autonome, mais aussi le réseau 5G pour permettre à la voiture de s'arrêter face à un obstacle. C'est ça, on va pouvoir comme ça découper
Voilà, exactement. Donc vous l'avez cité, la 5G, c'est des applications grand public dont on a parlé, mais ce sont des applications dans le monde des entreprises et dans le secteur public. En fait, c'est l'accélération digitale du monde de l'entreprise. Accélération digitale dans plusieurs cas d'usage. Donc le cas le plus visible actuellement, c'est la voiture autonome. Qui a aussi des impacts dans le secteur public. Prenons le cas d'un bus, par exemple. Imaginons que la France gagne, n'est-ce pas, la Coupe du Monde.
Bah, on va déjà attendre vendredi, hein. Voilà.
Le bus se trouve coincé dans la foule, ouais. et à ce moment-là, en fait, c'est un cas qui n'est pas prévu par le programme, donc il s'arrête, c'est un arrêt d'urgence. Il faut qu'un opérateur reprenne la main sur le bus, et on voit bien, et ce sont les apports de la 5G, que pour reprendre la main, il faut une image haute définition à l'opérateur qui ne se trouve pas dans le bus. Il lui faut aussi une fiabilité totale de connexion. Et bien évident qu'à partir du moment où le bus commence à se déplacer, il faut aussi pouvoir l'arrêter et le piloter en temps réel. Donc en temps réel, c'est aussi un des apports de la 5G. Et on voit que via les entreprises, le grand public va aussi en bénéficier.
Donc finalement, autant d'usages, autant de petits bouts de réseau 5G, c'est ça un peu Frédéric Simotel?
Oui, c'est un peu ça, c'est ce qu'on voit se dessiner, hein. C'est pour ça qu'il y a une certaine maturité qui est en train de naître autour de la 5G. Chacun, tous les acteurs voient exactement ce qu'ils vont pouvoir faire et à quel niveau. C'est pour ça qu'on entend d'ailleurs beaucoup médiatiquement beaucoup parler de cette 5G, des expérimentations partout, mais voilà, elles sont d'ordre assez différent, mais voilà, tout le monde est dans le même ordre de marche, dans le même sens de la marche, donc
ce qui signifie finalement que on pourra déployer step by step cette 5G pour des usages précis. Finalement, il n'y a pas de précipitation à recevoir la 5G partout pour téléphoner, consommer de la vidéo, de la musique, etc., etc. Merwan Debar.
Alors, précipitation, je ne sais pas si c'est le bon mot, en fait. La 5G, de toute façon, a été définie pour connecter l'ensemble des objets. Ouais. Voilà. Donc, il y a les terminaux humains et également les objets. Et donc, au niveau des déploiements, il faudra la déployer d'une certaine façon complètement à partir de 2020. Et donc là, on n'a pas le choix, pour la simple raison que c'est toujours la même chose. Les usages vont également apparaître dès le moment où on va fournir à l'ensemble de l'écosystème cette capacité. Je vous donne un exemple très simple. Actuellement, plusieurs banques sont intéressées de faire du trading haute fréquence sur la 5G parce qu'ils découvrent qu'il y a une latence de millisecondes. Donc il y a des usages qui sont créés uniquement parce qu'on commence bien à pouvoir fournir cette latence-là. Donc on ne peut pas toujours se poser la question. Au moment où on aura effectivement les usages, on va développer les technos. Donc fin 2019, la standardisation sera finie. Et ensuite, il y aura des commitments selon les pays pour la déployer. Ça, c'est ensuite le choix des pays pour le faire. Le standard sera prêt.
Christophe Delay, CFR.
Oui, on est parfaitement en phase. Par contre, faut bien voir, c'est le déploiement en fait d'un seul réseau. Et la force qu'à travers la 5G, c'est qu'à travers un seul réseau et à travers ce mécanisme que vous avez décrit, ça va permettre de mutualiser et d'optimiser l'ensemble de ces usages. Et en fait, au fur et à mesure du déploiement, ça sera d'ailleurs essentiellement par des évolutions logicielles, etc., qu'on amènera l'ensemble de ces fonctionnalités.
Frédéric, un mot, puis on revient vite.
Et par contre, alors je parlais pas de précipitation, mais il faut quand même aller assez vite parce que, et on va en parler, je pense, à la deuxième partie de l'émission, c'est un enjeu de bataille internationale.
Ah oui, on parlait des Chinois, des
Américains,
mais
nous aussi, les Européens, on était très forts à une époque sur le mobile, on a
tellement
perdu la partie sur la 4G, il faudrait pas qu'on vienne à perdre celle sur la 5G, donc là aussi, il y a de gros enjeux pour lesquels il faut aller un peu plus, assez vite aussi.
Il faudra nous dire aussi combien ça coûte, justement. On y reviendra. À tout de suite avec les décodeurs de l'écho. Gros plan ce soir sur la 5G sur BFM Business.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
La 5G, voilà, il y a des expérimentations régulièrement par les grands opérateurs français avec les équipementiers, bien sûr. Horizon 2020 à peu près, la 5G 100 fois plus rapide que la 4G. Alors, faut dire, on l'expliquait tout à l'heure, ça marche pas tout à fait de la même façon, et en tout cas les usages ne sont pas du tout les mêmes, parce qu'on pourra faire des morceaux de réseau pour servir sur des usages particuliers, les entreprises par exemple qui pourront déployer leur propre réseau 5G, par exemple une société d'autoroute, voilà, bon très bien. Le prix du déploiement à la 5G, ça va nous coûter combien justement cette histoire? Parce qu'évidemment, bah, il y a quand même des équipements, des investissements. Je sais que vous, Huawei, en France, Merwan Debar, vous êtes dessus depuis 10 ans. Bon, évidemment, combien de centaines de millions vous avez déjà investi?
600 millions,
vous SFR?
Bah non, on investit tous les ans 2,2 milliards.
Sur la 5G?
Non, sur le réseau.
Ah, sur le réseau, oui, d'accord.
Donc on continuera bien à investir dans les années.
Bien sûr. Bon, au final, ça nous coûte combien le déploiement de la 5G? Vous avez une idée ou pas, Pierre Bosquet, Deloitte, hein?
Alors, ce que je sais, c'est que nécessairement, et vous l'avez dit, il va falloir densifier les réseaux.
Oui.
Donc, si on densifie en 4G, ça va coûter très cher. Et dans les comités de normalisation, l'aspect économique était pris en compte. Et l'objectif était de faire en sorte qu'on puisse, que les opérateurs, en quelque sorte, qui savent qui supposent qu'ils ne pourront pas nécessairement augmenter le prix par utilisateur, n'aient pas à supporter des coûts beaucoup plus importants. D'où la virtualisation, et ça vous pouvez nous en parler, de l'accès, en français, de l'accès réseau, qui permet en fait de baisser significativement les coûts du déploiement de ces antennes.
C'est quoi ça? Alors qui, Christophe de la SFR?
Non, nous ce qu'on dit effectivement, c'est que de toute façon, nos clients ont un usage qui continue à augmenter. Donc tous les ans, on investit régulièrement dans notre réseau, comme je disais. Et donc après, notre sujet, c'est de trouver avec les équipementiers les solutions qui permettent à la fois de continuer à déployer, d'augmenter les débits et finalement d'améliorer ce qu'on appelle le coût gigabit. Et la 5G, effectivement, va permettre aussi de diminuer, par rapport à ce qu'on aurait pu continuer à faire en 4G, le coût au gigabit.
Ouais,
Mais c'est une tendance qui est la même depuis 10 ans.
Frédéric Simotel.
Oui, puis ce qu'il faut voir, c'est que derrière, hein, je vais faire le côté good cop, hein, c'est que ça va créer de la valeur. Oui. On va avoir des services supplémentaires, des nouveaux usages, donc de la valeur. Ça va créer de l'emploi aussi. Oui, c'est 22 millions d'emplois. J'ai de ça quelque part. Enfin bon,
il y a l'institut IHS Markit qui explique que l'apport de la 5G à l'économie mondiale, on verra ce que ça recouvre, parce que c'est des sommes qu'on ne se rend absolument pas compte. En 2035, 12 300 milliards de dollars. Voilà. Donc, évidemment.
C'est ça. Il y a tous ces nouveaux services. Les villes intelligentes envoient tout ce qui reste à faire aujourd'hui quand on est dans une ville en termes de transport, de régulation du trafic. Tout ça, ça va être des services supplémentaires. Et pour les entreprises, elles vont pouvoir en profiter. Les entreprises elles-mêmes dans leur réseau. Les entreprises produisent tout un tas de données, que ce soit sur leur énergie. Même nous, dans les médias, on a des données, on pourrait récupérer nos données de climatisation, de consommation d'énergie.
Ouais.
Savoir, tiens, il y a un moment, il y a tels endroits, on pourrait un peu réduire tout ça.
Tout ça va permettre. Se monétise.
Enfin, voilà. Ça va créer cet ensemble de choses et on va pouvoir les traiter.
On peut pas donner de chiffres directement parce que.
Merwan Débat.
Ouais, ça va dépendre du spectre alloué. Ouais. Est-ce qu'il y aura des licences? Combien ça en va le coût? Parce que un déploiement, c'est pas que l'infrastructure. Il y a le spectre, il y a tout un aspect derrière. Mais ce qui est certain, c'est que les choses ont été bien faites où le développement de la 5G peut se faire pour certains opérateurs en deux étapes où on ne change pas le cœur du réseau.
Tout juste.
On garde le cœur du réseau.
Ça, c'est bien.
Et on change que les mains et les antennes.
Bien sûr.
D'accord. Et donc ça peut être un déploiement rapide.
Ouais.
C'est ce que beaucoup d'opérateurs ont décidé de faire.
Mmh.
Et ensuite, il y a la deuxième étape où on peut décider de changer le cœur du réseau pour avoir la logique de latence, etc. incorporée. Mais sur la partie très haut débit, certains opérateurs ont fait le choix de faire ce qu'on appelle le non-standalone 5G, donc c'est barbare ce qu'on dit, mais tout simplement c'est garder l'infrastructure du cœur du réseau 4G.
Mais voilà. Ça peut, alors c'est évidemment trop tôt pour en parler, mais le consommateur de base, justement, ses forfaits, ils vont en prendre un coup, pas Christophe Deloitte. Alors vous êtes en charge de la technique, hein, vous n'êtes pas en charge
de
la
commerciale. Je ne fais pas la politique commerciale, non. Après, je regarde simplement ce qui s'est passé ces dernières années. C'est pas cette tendance-là qui s'est dégagée, donc il n'y a pas de raison.
On a vu des débits multipliés et on n'a pas vu au contraire, on a vu le tarif un peu baisser. Après, il y aura davantage de services, on aura peut-être plus de services à la carte, c'est ce que reprochent d'ailleurs certains, enfin reprochent.
Si on reprend un peu l'historique de la 4G, ce qu'on a vu, c'est que tous les pays n'étaient pas logés à la même enseigne. Dans certains pays, comme aux États-Unis, ils ont été capables en fait de remonter le coût de l'abonné qui voulait passer sur la 4G. En France, il y a eu des tentatives, mais ça n'a pas produit autant les effets perçus. Et typiquement, l'impact du régulateur est important sur cet ARPU.
Oui, justement, le régulateur et puis de façon générale la réglementation européenne. On reparle de la neutralité du net, parce que ce que SFR, ce que Orange, ce que Bouygues développe, ce que Huawei développe également, à un moment, ce sont les Netflix, les YouTube qui vont en profiter aussi, et sans verser beaucoup d'argent, sans non plus payer beaucoup d'impôts, même si tout ça est très très légal. Bon, ça nécessite de rouvrir le débat, tiens Frédéric, sur la rémunération des opérateurs télécoms sur pour les coûts de transport de leur contenu, parce que bah ouais, pendant que Huawei dépense des centaines de millions, pendant que SFR dépense des milliards, bah là, il y en a qui se gavent. Hein.
C'est là tous les enjeux dont je parlais tout à l'heure, les enjeux de normes. De, c'est pour ça qu'il faut aller assez vite et définir un peu, clarifier un peu les rôles de chacun. Mais c'est évident que là, par rapport à, parce que on fait des alors pas des tuyaux forcément plus gros, mais des tuyaux plus performants.
Bien sûr.
Et c'est évident qu'on va vouloir en mettre encore plus.
En plus donc,
et la valeur à se partager, ben doit aussi, enfin les opérateurs ont leur rôle à jouer aujourd'hui par rapport à ces Netflix et YouTube et tout ça. Mais,
il y a les opérateurs et les régulateurs. Moi, quand je regarde ce que je vois en ce moment, c'est ce que je vois dans mon réseau, c'est Netflix qui augmente le plus.
Oui, c'est ce qu'on dit à Internet en France, c'est ça.
Exactement. Hein. Et je crois que quand on prend les GAFA, donc les Google, Apple, Facebook et Netflix, ça doit représenter 70 ou 80% du trafic.
Des usages, du trafic. Ouais.
Donc la neutralité du net qui consiste dans l'absolu à dire il faut que ça soit, on fait de la neutralité du net pour que ça soit les petits qui arrivent à exister et à vivre.
Tu penses, ouais.
Quand on regarde aujourd'hui, c'est pas ça qui est en train de se passer.
Bien sûr, bien sûr.
C'est-à-dire que les gros sont là et, comme le disait Frédéric, ils payent pas d'impôts en France, etc. Et nous, on supporte l'ensemble des coûts dans le réseau. Donc je pense qu'effectivement, il faut que l'ensemble à la fois de la classe politique et de l'Europe soit peut-être un petit peu moins naïf. Et entre les gros Américains, et on voit la même chose se créer du côté chinois avec les Alibaba, etc. Entre les deux, bah, en Europe, c'est quoi les GAFA de demain? Et si on n'arrive pas à se les créer, bah effectivement, on aura un problème de valeur sur les années qui viennent.
Ce n'est pas trop tard, déjà.
Bon, cela dit, je pense que la 5G offre également l'opportunité de faire de nouveaux business models, hein, parce que globalement, sur l'Internet des objets dont on parlait, on est sur du mode tweet, hein, c'est des tweets qui sont émis. Et donc, on n'est pas vraiment dans le côté capacitif. Donc, effectivement, sur le segment très haut débit, il y aura ce souci-là, je pense que les discussions vont avoir lieu. Mais il y a d'autres segments, c'est une opportunité pour se régénérer en termes de business model.
Bah, c'est
savoir comment on fait de l'argent avec l'Internet des objets.
Parce que c'est vrai, quand on parle de pilotage à distance d'un véhicule, de ces dizaines de milliards d'objets connectés qui seront disponibles d'ici quelques temps, ça va venir très très vite, cette télémédecine également, c'est quoi les avantages liés à la 5G dont vont pouvoir bénéficier les entreprises, les particuliers, les opérateurs, justement, qui va tirer profit du déploiement de la 5G?
Alors, l'industrie 4.0 en général, c'est le segment qui est en général bien pointé par la 5G, en tout cas sur l'aspect connectivité, où globalement on peut piloter des objets à distance, dans les usines, typiquement, on a des soucis de localisation, de faire fonctionner des robots. Dans la voiture autonome dont on parlait, c'est pas uniquement faire rouler la voiture, la voiture doit également rouler avec des bicyclettes à côté, donc il y a des communications bicyclettes, communications vers l'infrastructure, mais il y a également...
C'est quoi les communications bicyclettes?
Non, s'il y a un vélo à côté, il faut savoir... D'accord. Effectivement, comment communiquer avec le vélo pour éviter un accident.
Bien sûr.
Mais il y a également, tout simplement, reprendre la main sur un véhicule quand il y a un problème.
Toujours.
Et le piloter à distance.
Ouais,
ça, c'est également des choses qu'on envisage et de voir faire ça.
Et puis, il y a la question de la norme. Alors ça, c'est toujours pareil, quand on a des nouvelles technologies, que ce soit donc les magnétoscopes d'autrefois ou la 5G aujourd'hui, donc en 2018-2020. Est-ce que les standards de la 5G, Frédéric Simotel, sont complètement arrêtés?
Non. Non, et aujourd'hui...
Quelle norme va dominer le monde, donc, dans les années 2020-2025, quand on parle de 5G? Va donner le là?
Aujourd'hui, il faut qu'on bouge, parce que les Américains sont bien avancés. Les Chinois sont très avancés aussi. Hein, les Chinois que l'on voyait moins dans la 3G, on se souvient pour les plus anciens, les CDMA 2000, les WDMA, enfin, toutes ces technologies. Il y a eu plusieurs technologies 3G, et puis c'était UMTS qui s'en était sorti. Voilà, c'est des termes qui rappelleront certaines choses aux plus anciens. Mais voilà, aujourd'hui, il y a une vraie bataille autour de ça, une vraie bataille autour de ces standards. Et là, l'Europe doit s'entendre aussi pour se battre face à ces Chinois et ces Américains.
Il y a les Chinois, les Américains, la Chine, c'est vrai, la 5G, vous le disiez, donc c'est une des...
C'est un enjeu national.
C'est une priorité. C'est l'un des piliers, d'ailleurs, du programme Made in China 2025. On voit comment la Chine accélère donc ses efforts, ses investissements dans la 5G. Aux États-Unis, les ambitions chinoises suscitent des craintes. Et on sait que Huawei n'est pas forcément en odeur de sainteté dans les États-Unis de Monsieur Trump, Merwan Deba. C'est un objet de tension entre les deux grands ensembles, Chine, États-Unis. C'est un enjeu de souveraineté, justement.
Alors, c'est clair qu'il y a un enjeu, mais il ne faut pas oublier que la 5G était quand même un standard international. D'ailleurs, la 5G, le terme technique, c'est IMT 2020. C'est ça la 5G. La 5G en général c'est un terme marketing, on peut mettre tout dedans, mais l'IMT 2020 qui veut dire International Mobile Telecommunication System, c'est un standard international. Et il faut qu'il y ait un accord international parce que tout simplement, il faut qu'il y ait des facteurs d'échelle. Mmh. Faut pas oublier les investissements, on parlait de Huawei, mais Samsung a fait des efforts aussi intenses en termes d'investissement et d'autres également équipementiers ont tous investi des sommes extrêmement importantes et il faut qu'il y ait effectivement ce facteur d'échelle.
Oui, on viendra sur Chine, États-Unis, c'est qui les équipementiers à la pointe, Frédéric Simotel quand on parle de 5G?
C'est Huawei.
Donc Huawei, c'est pour ça qu'il est sur le plateau ce soir.
Ericsson
bien sûr, ouais.
Voilà, après c'est ce que l'on entend, que l'on cite le plus souvent. Hein. Après, évidemment, tout le monde travaille dessus, mais c'est vrai que les expérimentations aujourd'hui sont menées à partir de ces deux grands équipements.
On voit que Trump, on parlait de la neutralité du net, on voit que Trump, par exemple, a mis fin à la neutralité du net, c'est-à-dire que tout ce qui est fournisseur d'accès à Internet.
Il faut savoir que Trump, il voulait carrément nationaliser le réseau 5G américain. Hein. Je ne sais plus si c'est cette année au printemps, où il voulait faire un réseau. Exactement. Alors évidemment, les opérateurs sont tous montés en disant ouh, là, on va un peu vite, mais voilà, il avait quand même dans cette idée en disant. C'est un trop gros enjeu de laisser la 5G avec beaucoup de constructeurs chinois notamment derrière et puis les fabricants de processeurs et tout ça. Et il est un peu revenu en arrière. Mais...
Ça veut dire que les FAI vont faire payer leurs clients plus cher pour certains services qui nécessitent beaucoup de bandes passantes, hein, avec une meilleure qualité de service, hein, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire jusqu'à présent. Ça va être un moyen d'inciter quelque part aussi les géants du mobile à accélérer dans la 5G, justement, de pousser justement aux États-Unis. Tiens, Pierre Bosquet, Frédéric Simotel, l'un ou l'autre. Allez-y. Frédéric.
Oui.
Allez.
Oui, comme je disais, sans aller avec la précipitation, faut quand même aller assez vite, quoi, parce que derrière, on l'a dit tout à l'heure, c'est des équipements. Alors, on pense aux terminaux, mais on pense aussi à tout ce qui va être les équipements dans les voitures, tous les équipements qui vont être dans les villes connectées, tous les équipements en télémédecine, tous les équipements dans nos maisons connectées, dans les entreprises. Qui va être maître ensuite de la norme qui va être, enfin maître de la norme, c'est pas juste ce que je dis, mais qui va être à la base de ce déploiement de tous ces équipements, parce que quand on dit des milliards d'objets connectés, c'est partout, hein, c'est les entreprises, c'est nous chez nous, c'est nos vêtements à terme.
C'est des usines qui vont être complètement robotisées. Ericsson d'ailleurs a ça dans son catalogue, dans ses projets, dans ses cartons. Pierre Bosquet de Loi, juste après Christophe de la SFR.
Et vous le disiez, en fait, on pense évidemment au déploiement des mobiles, aux Apple, Samsung et autres qui devront faire les devices, mais c'est une norme aussi pour les entreprises et qui va permettre aux entreprises d'innover. Et donc, là, ici, on parle de devices qui ne sont pas, et vous l'avez mentionné, en télémédecine, etc. En fait, ce ne sont pas les mêmes mobiles, en quelque sorte, que les utilisateurs. J'aimerais à ce titre... faire un peu la voix de la France au milieu des deux blocs de la Chine et des États-Unis. Vous savez que les technologies mobiles ont initialement été pensées en France. Hein. L'ETSI est situé à Sophia Antipolis. Vous savez aussi que pour le réseau d'accès, en fait, la maîtrise des mathématiques est nécessaire. Et c'est aussi pour ça qu'on trouve des centres de R&D de Huawei, mais pas que de Huawei. Il y a aussi un très gros centre R&D de Nokia et d'autres équipementiers en France, donc pas seulement en Chine ou aux États-Unis. La France a vraiment une carte à jouer sur ce plan-là.
Parce que la France et l'Europe sont vraiment en retard par rapport à la Chine, aux États-Unis.
En termes de calendrier de déploiement, la Corée, par exemple, dit vouloir déployer la 5G pour les Jeux d'hiver d'ici la fin de l'année.
Bon, on l'avait vu, les Jeux d'hiver, c'était à Pyeongchang, c'était donc en début d'année, c'est ça?
Ah, en début d'année, pardon. Oui, pardon. Donc les opérateurs ont prévu 2020 en France, en Europe. Visiblement, les Américains vont vouloir déployer plus tôt vers 2019. Pour autant, la guerre n'est pas perdue.
Christophe Delay.
Après, il faut bien regarder les cas d'usage. Hein. Le cas d'usage américain, c'est pas le cas d'usage français. Eux, ils visent beaucoup d'essayer de remplacer du fixe. Donc, c'est beaucoup les opérateurs mobiles qui, n'ayant pas de fixe,
d'accord,
hein, ce qui n'est pas le cas en France. Ouais. Nous, on a aussi du fixe.
Les deux, ouais.
Veulent utiliser donc les très hautes bandes de fréquence pour concurrencer les opérateurs fixes. Donc ils vont aller vite, mais ils n'ont pas besoin tout à fait des mêmes normes. Ils n'ont pas besoin d'avoir un terminal aussi intégré que celui dont on parle pour les clients. Mais donc de toute façon, avant Q3 2019, il n'y aura pas de terminaux 5G. que ça soit pour les Chinois ou pour les Coréens ou les Américains. Donc ça sera Q3 2019. Et nous, si on a nos licences, on sera là début, début 2020. Donc on est, alors après, ce que je voulais rajouter,
c'est que,
il est aussi très important pour aller vite parce que tout ce qu'on raconte sur les, sur l'écosystème, sur les nouveaux business, on sent qu'il y a un potentiel qui est énorme. Sauf que ce potentiel, entre la vision un peu intellectuelle en disant ça va donner ça, ça va bien marcher, et l'expérimentation et la vraie vie, il faut qu'on passe justement dans ces phases d'expérimentation pour que bah, les vrais business de demain apparaissent.
Ouais.
Et il ne faut pas, être trop en retard par rapport à ça. Bah alors, si le business arrive un peu plus tard, il faut qu'on puisse expérimenter assez vite pour qu'effectivement des entreprises...
Alors moi, je ne suis pas en retard. Hein. C'est-à-dire que bon, la 5G, ça m'a donné envie. Mais je me dis maintenant, allez... La 6G, c'est quand, là, tout de suite? Ça va tellement vite, pardon, mais Merwan Deba, chez Huawei, en France, oui. La 6G, ça existe? On commence à en parler?
Alors, on commence à en parler, de manière assez surprenante, au niveau des programmes européens 2021-2027, on commence à en discuter, même au niveau de notre entreprise, on commence à avoir des pré-réflexions. Il faut savoir que ça rentre dans la logique des réseaux cellulaires de 10 ans, d'accord? Donc, la recherche va commencer dès l'année prochaine sur la 6G.
Est-ce qu'on a déjà une idée de ce que ça pourrait apporter, la 6G, alors qu'on n'a même pas encore la 5G, mesdames, messieurs?
Alors non, pas encore, puisqu'on est en stade de réflexion. Ouais. Bien sûr, on commence à penser à d'autres choses de type des communications quantiques, plein de choses qui se mettent en place. On n'a pas encore, bien sûr, d'idées bien fixes, mais ça commence.
Très bien, bah, passionnant et, tout ça.
Et le point important, on a rapidement parlé, mais c'est l'histoire de l'autonomie aussi. Hein. C'est parce que ça, c'est la 5G, c'est un des points aussi forts sur le. Sur lesquels la 5G va apporter des choses.
Bon, merci à tous. Merwan Deba, directeur R&D de Huawei en France. Christophe Delay, directeur exécutif réseau et système d'information de SFR. Pierre Bosquet, associé spécialiste des télécoms chez Deloitte. Et puis Frédéric Simotel, que vous retrouvez chaque week-end dans le 01 Business Forum. Une émission que je suis également le week-end, qui est passionnante. Les décodeurs de l'écho qui reviennent très très vite, bien sûr.
Les décodeurs de l'écho. Sur BFM Business.